France Culture. Les nuits de France Culture. En 1977, en compagnie des meilleurs spécialistes de la question et en passant par le Muséum d'Histoire Naturelle, le Centre Technique du Bois et par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, Frédéric Christian invitait les auditeurs de France Culture à se pencher sur le présent, le passé et l'avenir des arbres. En abordant les différents aspects de la vie des arbres et de celle des hommes avec eux, l'émission que nous allons entendre permettait d'évoquer les enjeux environnementaux et industriels tels qu'ils se posaient autour des arbres et donc du bois en 1977. D'évoquer par conséquent ce qu'était alors l'avancée des recherches dans le domaine de la dendrologie, autrement dit de l'étude des arbres, et les progrès en matière d'arboriculture. Des arbres dont, à la fin des années 70, on savait peut-être un peu moins long qu'aujourd'hui, mais suffisamment pour les savoir en danger partout sur la planète, où la forêt dans son état naturel avait déjà presque totalement disparu. Une émission à l'écoute de laquelle on se demandera peut-être si nous serons capables de laisser aux arbres le temps de nous livrer un jour tous leurs secrets. La mémoire verte des arbres, une émission diffusée le 14 octobre 1977 sur France Culture.
J'écris arbre, arbre d'orbe en cône et de sève en lumière, racine de la pluie et du beau temps, terre animée. J'écris arbre, arbre pour l'arbre.
Arbre pour l'arbre. L'arbre qui a joué un rôle vital dans la vie de l'homme depuis ses origines. L'arbre, facteur de civilisation. L'arbre qui suscite aujourd'hui un regain d'intérêt pour des raisons économiques et écologiques. Ainsi, plus que trois fois centenaire, héritier d'un prestigieux passé, le Jardin des Plantes de Paris, s'il offre au regard des visiteurs une remarquable collection d'arbres historiques, n'en est pas moins tourné vers la recherche la plus moderne, tant fondamentale qu'appliquée, et à la fois de laboratoire et de terrain. Recherche menée également au Centre Technique du Bois, en vue d'une meilleure utilisation de l'arbre dans l'industrie. Recherche encore au service forestier de l'Institut National de Recherche Agronomique, dans le but de percer les secrets de l'arbre. Arbre pour l'arbre. Arbre sauvage, arbre domestiqué, que sera l'arbre demain? Mais reprenons au commencement. L'arbre a donc occupé de tout temps une place importante dans la vie de l'homme. Alors, Jean-François Leroy, peut-on affirmer qu'il a joué dès le départ un rôle civilisateur?
Sans aucun doute, à condition toutefois de distinguer l'arbre en tant que constituant de la forêt et l'arbre plus ou moins isolé, dispersé, comme dans les savanes en Afrique. Vous savez que les origines de l'homme ne se situent pas en Europe, bien entendu, et que les milieux en question, les milieux où cette origine a eu lieu, ce sont des milieux dépourvus de forêts denses. Mais l'arbre a été exploité à tous égards et à tous les âges, dans toutes ses parties, c'est absolument indiscutable, c'est un matériau tout à fait essentiel, lié d'une façon directe à l'ascension de l'homme.
Oui, donc on peut dire que l'arbre a joué presque deux rôles contradictoires. Il y a eu un rôle de barrière dans la mesure où il faisait partie d'un grand massif forestier.
Exactement.
Et pour les peuples qui habitaient en lisière de ces forêts, là, l'arbre a été d'un très grand secours.
Voilà, exactement. Dans une certaine mesure, la grande forêt a été un obstacle à la diffusion des hommes sur la terre. Et elle a été aussi certainement quelque chose qui faisait peur.
On ne peut pas, bien sûr, dresser une liste de tout ce que l'arbre a apporté à l'homme. On n'en finirait pas, mais on peut quand même rappeler très rapidement dans quel domaine il est intervenu.
L'arbre est intervenu par toutes ses parties et par toutes ses productions, n'est-ce pas ? Bien entendu, le bois et les fruits. Et aussi les feuilles, n'est-ce pas ? Les feuilles ont été utilisées comme fourrage. Et le bois a été un matériau essentiel comme producteur d'énergie, n'est-ce pas ? On l'a utilisé pour faire la cuisine, pour se chauffer.
Yves Lessu ?
En particulier, on peut souligner que les plus beaux échantillons, les grands troncs, les grands arbres bien droits, ont été utilisés à de multiples usages. C'est la raison pour laquelle ils ont disparu si rapidement. On se lamentait déjà à cet égard au XVIIIe siècle. Il suffit de citer le boisage des mines, la construction des navires, même la construction des maisons, qui pendant très longtemps ont consisté en une charpente de bois plus ou moins remplie avec toutes sortes de matériaux.
Moi, je voudrais qu'on parle quand même d'un autre aspect de son rôle civilisateur. Est-ce qu'on ne peut pas affirmer que sans arbre, pas de pâte à papier, et sans pâte à papier, pas de livres ni de journaux, donc pas de rayonnement des idées, de la connaissance ?
Bien, il est indéniable que, actuellement, quand on pense à la masse d'imprimés qui sont diffusés de par le monde dans toutes les langues, et à la quantité de pâte à papier, donc à la quantité d'arbres que cela suppose, il est évident qu'on ne voit pas très bien ce que nous ferions si les arbres venaient à nous manquer brusquement.
Je pense au rôle du bois, vous l'avez signalé tout à l'heure, dans la construction des navires. Et les navires ont permis là aussi un brassage d'idées, le commerce, qui a été l'un des grands traits de la civilisation.
Oui, et les navires, bien sûr, mais alors, il faut aussi penser au fait que certains arbres ont été utilisés pour traverser les mers au cours de la préhistoire. Je pense par exemple au balsa, vous connaissez l'histoire du balsa pour la traversée du Pacifique, n'est-ce pas ? Et ça a certainement joué un rôle considérable pour la diffusion des populations sur le globe, avant même qu'il y ait les grands bateaux modernes.
Et d'ailleurs, on peut dire que les temps modernes, ce qu'on appelle vulgairement les temps modernes, commencent à la fin du XVe siècle avec les grandes découvertes du monde par les Européens, bien entendu, sur des navires en bois.
Il ne faut pas oublier que c'est précisément l'utilisation du bois par la marine qui est à l'origine de la destruction d'une partie des forêts du globe, notamment aux États-Unis.
Jacques Verdier ?
Il faut rappeler à ce sujet en particulier la destruction de la très grande partie de forêts de cèdres du Liban par les Égyptiens qui ont taillé à blanc sur ces pentes montagneuses couvertes de cèdres magnifiques, amenés par flottage jusqu'en Égypte ces troncs de cèdres et construire sur place leur flotte destinée à la mer Rouge qui était transportée à d'autres chameaux jusqu'aux rives de la mer Rouge et remontée sur place pour constituer cette flotte. Et ça a été la disparition, en très grande partie, des forêts de cèdres magnifiques du Liban.
Alors naturellement, on peut affirmer que de nos jours encore, le bois joue un très grand rôle dans notre société.
D'autant plus que les techniques permettent d'utiliser le bois, non plus à l'état brut, mais après des transformations et des aménagements qui permettent des utilisations extrêmement fines et bien adaptées à toutes les conditions qui sont nécessaires. Qui sont exigés par la vie moderne.
Bien, maintenant que nous avons survolé un peu rapidement peut-être l'intérêt que peut avoir le bois, donc l'arbre, nous allons essayer de parler du jardin des plantes et de son rôle. Mais auparavant, peut-être serait-il bon, Yves Lessu, que vous nous fassiez un petit historique du jardin des plantes.
L'histoire du jardin des plantes. Les arbres blancs, les arbres noirs, sont plus jeunes que la nature. Il faut, pour retrouver ce hasard de naissance, vieillir.
Le jardin a été créé en plusieurs étapes à l'endroit même où il est installé aujourd'hui. La première de ces étapes, c'est un édit du roi Louis XIII qui décide la création à Paris d'un jardin des plantes médicinales en 1626. La seconde étape, c'est l'achat d'un terrain dans ce qu'on appelait alors le Faubourg Saint-Victor, qui était considéré comme assez éloigné, même très éloigné du centre de Paris. L'achat d'un terrain qui est celui, au moins une partie de celui qu'occupe encore actuellement le Jardin des Plantes. Et la troisième étape, c'est un édit qui organise dans le détail l'enseignement, le fonctionnement de ce Jardin des Plantes médicinales en 1635. Et le jardin s'est ouvert aux premiers étudiants qui y sont venus étudier les vertus des plantes en 1640.
Oui, on peut dire que dès le départ, auprès du public, déjà, ce jardin a obtenu un très 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 grand succès. Et là, vous parliez des cours qui étaient dispensés, c'était les médecins du roi qui donnaient en français, je crois, ces cours qui étaient publics et gratuits déjà.
Le jardin a été fondé dans un esprit de grande liberté pour abriter ce qu'on appellerait aujourd'hui des recherches de pointe. Le roi, en créant ce jardin, a voulu qu'il fût débarrassé des contraintes universitaires et qu'on puisse y enseigner sans aucune espèce de contrainte intellectuelle. Les cours y étaient donnés en français, comme vous venez de le rappeler, sans aucune formalité d'inscription, ni sans aucune formalité de diplôme, ce qui d'ailleurs rend assez malaisé les recherches dans ce domaine.
Comment ça se succédait à la tête de ce jardin, toute une lignée de botanistes célèbres qui étaient à l'époque en même temps voyageurs et systématiciens.
C'est ce qui s'est passé très rapidement à la fin du XVIIe siècle. Tournefort, qui était médecin, a été nommé au Jardin des Plantes et c'est probablement le premier grand botaniste du Jardin des Plantes.
C'est lui qui, en particulier, croit-on, a organisé la première école des plantes qui comportait une section école des arbres. L'emplacement de cette première école des arbres est encore donné par le sophora du père d'Incarville planté au milieu du XVIIIe siècle et qui vit toujours devant la galerie de minéralogie.
Peut-être serait-il bon de parler de Thouin, qui était quand même un personnage assez fabuleux.
C'est l'homme qui s'est probablement promené pendant le plus longtemps dans les allées le long des parterres du Jardin des Plantes. C'est lui-même le fils d'un jardinier du Jardin des Plantes et il a été nommé par Buffon jardinier en chef à l'âge de 17 ans. Et ça se passait dans les années 1750 à peu près et il est mort en 1824.
Il est parti faire pratiquement toutes les guerres, enfin d'abord avec Bonaparte et ensuite avec Bonaparte devenu Napoléon. Et pendant toutes ces campagnes, il s'est appliqué à observer les modes de culture, les techniques qu'il a essayé d'adapter en France par la suite.
Oui, c'est cela. Il a suivi les armées révolutionnaires à la fois dans les Flandres et dans l'Italie. Et au cours de ses voyages, il a noté avec le plus grand soin, dessiné, acheté une collection extraordinaire d'instruments oratoires dont il a fait faire des modèles réduits qui sont encore aujourd'hui conservés au jardin. Une grande partie de ces papiers sont encore actuellement conservés aujourd'hui à la bibliothèque du Jardin des Plantes. Et elle montre le rôle extrêmement important que Thouin et ses aides ont joué pour diffuser en France, à une époque où on se piquait volontiers de botanique, d'entretenir un arboretum, le rôle que ces gens-là ont joué pour diffuser. Chaque année, des milliers de plants, de jeunes arbres étaient envoyés aux quatre coins de la France, et même, on peut dire, aux quatre coins de l'Europe, et même en dehors de l'Europe. Dans les papiers de Thouin, par exemple, on a la trace des correspondances qu'il a entretenues aux États-Unis avec Jefferson et Franklin, pour ne citer qu'eux. Et correspondances dans lesquelles on voit très bien que de part et d'autre de l'Atlantique, on échangeait de jeunes plants, des graines, etc.
C'est l'époque où le muséum joue un très grand rôle dans l'introduction des espèces parce que nous avons les grands explorateurs en Amérique du Nord, notamment Michaud. Et un très grand nombre d'arbres qui ont été introduits l'ont été du fait de Michaud.
Puisque vous parlez d'introduction et de l'action, de l'activité de Thouin, il serait intéressant, à mon avis, de rappeler l'intérêt et la grande activité d'introduction d'arbres, d'essence nouvelle d'arbres, à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle. Jusque d'ailleurs à la guerre de 1914-18 pour aborder le 20e. Et j'ai sous les yeux quelques chiffres provenant d'une étude effectuée très récemment par un de nos collègues, Jean Pourtet, ingénieur général des eaux et forêts, qui s'est penché sur ce problème et qui a relevé qu'à la fin du XVIIIe siècle, eh bien cet inventaire signalait la présence de 314 espèces, genres et espèces, d'arbres et d'arbrisseaux. Tandis qu'au milieu du XXe siècle, l'on trouvait, sur les catalogues modernes, vers 1950, la présence de 2500 espèces d'arbres et d'arbustes, arbrisseaux, c'est-à-dire que le chiffre de fin du XVIIIe, de 1790, avait été multiplié par 8. Tout ceci montre l'importance des introductions de végétaux exotiques dans notre pays, mais il y a un autre aspect qu'il serait intéressant de signaler, c'est l'aspect de l'origine géographique de ces arbres introduits en Europe et en France en particulier. Voyez-vous, à la fin du XVIIIe siècle, les deux tiers des espèces recensées étaient originaires du bassin méditerranéen, y compris l'Asie mineure. Et pour un tiers, l'origine de ces arbres était la côte est de l'Amérique du Nord. Tandis qu'au milieu, à notre époque, au milieu du XXe siècle, le monde entier a été prospecté par les voyageurs botanistes de tous ordres, et la moitié des espèces proposées sur nos catalogues a pour origine l'Extrême-Orient et notamment la Chine. Voyez-vous quel progrès, quel chemin parcouru grâce à tous ces hommes.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces arbres-là ont été donc importés pour la plupart en France par des savants qui les ont ramenés de contrées lointaines sous forme de graines la plupart du temps. Et après avoir vécu de merveilleuses aventures, parce qu'à l'époque, on ne se déplaçait pas aussi facilement que maintenant. C'était déjà une grande entreprise de partir si loin.
Très. D'ailleurs, beaucoup sont morts. Beaucoup des explorateurs sont morts au cours de leur voyage.
Décorateur, magnolia, tulipier, sassafras ou amage, caravanier d'aromates, encensoir savonnier, amamélis coupant le sang des blessures, sorbier des oiseaux, cormier, mascousse amère et polaire tirant l'amant vers le baiser, pommier croqueur, j'écris arbre, animaux tendres, sauvages, domestiques. Le trésor du jardin des plantes, les arbres historiques.
Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de vous convier à une promenade dans le jardin des plantes, une promenade que j'ai pu faire avec M. Jacques Verdier, qui est le directeur du service des cultures du Jardin des Plantes, et où il nous a présenté quelques-uns de ces arbres, de ces trésors véritablement. Alors, je vous convie à nous suivre dans cette promenade. Monsieur Verdier, nous voilà en plein milieu du Jardin des Plantes. Et nous sommes déjà devant l'un des trésors de ce jardin, en l'occurrence le robinier, qui est, je crois, l'un des plus vieux arbres de Paris, sinon le plus vieux.
Très exactement. Il s'agit du robinier de Robin, dédié à Robin. Son nom botanique est le Robinia pseudo-acacia. C'est un arbre originaire d'Amérique du Nord, dont les graines ont été introduites en France en 1601. Et c'est Robin qui, les semant dans son jardin de la place Dauphine dès 1601, a vu un des exemplaires issus de ce semis de graines transplanté par son fils Vespasien Robin, qui a transplanté cet arbre en 1635 au Jardin des Plantes de Paris, alors que c'était le tout récent Jardin des Plantes Médicinales et Jardin du Roi. C'est un arbre qui s'est très largement développé par la suite dans notre pays, comme dans toute l'Europe occidentale, par ses qualités de robustesse, d'esthétisme, il faut le dire. Et c'est un arbre au système radiculaire puissant qui a été très utilisé, notamment pour la fixation des talus bordant les voies de chemin de fer depuis plus d'un siècle, on peut dire pratiquement depuis la création des chemins de fer, entre autres. Et puis ensuite, c'est un arbre qui, par hybridation, fixation de mutations diverses, a donné lieu à la création de variétés par hybridation avec des espèces voisines. Et l'on en trouve maintenant des exemplaires, des variétés d'acacia à fleurs roses, plus ou moins pâles, odorantes.
Le robinier a un frère à Paris, ailleurs qu'au Jardin des Plantes.
Vous avez parfaitement raison. Ce frère se trouve dans le square René Viviani, à deux pas de Notre-Dame, de l'autre côté de la Seine, au pied de l'église Saint-Julien-le-Pauvre. Nous arrivons maintenant devant la galerie de minéralogie, ou plus précisément son péristyle, qui est situé près d'une entrée du Jardin des Plantes, situé rue Geoffroy-Saint-Hilaire, face à la mosquée de Paris. Et nous avons là, devant nous, un exemplaire remarquable de Sophora du Japon, Sophora japonica, pour parler le langage botanique. Et vous êtes devant un arbre historique, car il s'agit du premier pied planté en France dans cette essence par Bernard de Jussieu en 1747. Cet arbre est issu de graines envoyées de Chine par le révérend père d'Incarville, qui était un missionnaire célèbre par ses prospections et ses envois de richesses botaniques de Chine et du Japon. C'est un arbre qui s'est lui aussi fort développé en Europe occidentale et en France en particulier au cours de la seconde moitié du XVIIIe et tout au cours du XIXe siècle. C'est un arbre qui résiste fort bien aux pollutions atmosphériques, ce qui le fait planter assez généreusement dans les centres de ville. À Paris, il n'y a pas mal d'artères plantées avec cette essence. Certains lui reprochent un système radiculaire un peu puissant qui soulève les ouvrages de voirie. Mais je crois que c'est voir un peu loin le défaut de cet arbre. Il est fort intéressant, comme je le disais tout à l'heure, par sa résistance à la pollution, une résistance au vent et aux éléments parasites, maladies ou insectes qui en font un arbre extrêmement précieux pour les plantations urbaines.
Bien là, nous arrivons, Monsieur Verdier, devant un des plus beaux spécimens que vous ayez au Jardin des Plantes.
C'est effectivement une très belle pièce. Il s'agit d'un platane d'Orient qui a été planté en 1785, c'est-à-dire à la fin de l'époque où le grand intendant du Jardin des Plantes, Buffon, régnait sur cette maison. Ce platane d'Orient a ceci de particulier, que c'est un des parents du platane que l'on voit sur les avenues, boulevards, cours d'une quantité de villes de notre pays. Et ces platanes sont de l'espèce Platanus acerifolia, c'est-à-dire platane à feuilles d'érable. Et ce platane à feuilles d'érable est le produit d'un croisement intervenu, qu'on appelle un hybride en botanique, entre deux espèces, le platane d'Orient, comme celui que vous avez sous les yeux, originaire de l'Asie mineure et de la Grèce en particulier, et le platane d'Occident, Platanus occidentalis, originaire d'Amérique du Nord. Alors voyez-vous, ce croisement obtenu au XIXe siècle a donné cet arbre extrêmement résistant à la pollution, au mauvais sol, aux élagages excessifs, comme nous le constatons partout dans nos villes, et a donné naissance à une foultitude de sujets parfaitement adaptés au climat si différent de nos différentes régions de France. Et sur le plan esthétique, enfin, c'est une très belle pièce. Voilà un arbre d'une architecture parfaite, remarquablement équilibrée, par sa puissance et son élégance à la fois, et il présente autant d'intérêt en hiver lorsqu'il est dépouillé de son feuillage, sinon plus qu'actuellement sous les frondaisons remarquables que vous pouvez constater.
Le cèdre qui se dresse devant nous, monsieur Verdier, est certainement l'arbre qui a la plus grande circonférence de tout le Jardin des Plantes. Et c'est presque le séquoia du coin, non ?
Effectivement, il est assez spectaculaire. Et pour nous, tant sur le plan de l'intérêt botanique que sur le plan sentimental, c'est une des pièces maîtresses du Jardin des Plantes de Paris. Il s'agit du fameux cèdre du Liban, dont la légende affirme que Bernard de Jussieu, en 1734, le rapporta d'Angleterre dans son chapeau.
Mais c'est un cadeau qu'un médecin anglais lui avait fait.
Effectivement, il était donné à Bernard de Jussieu par Collinson, un médecin anglais de ses amis. Et ce cèdre du Liban a été le premier pied de cette essence, de cette espèce, plantée en France, je répète, en 1734.
Oui, on va dire quand même à peu près quelle est sa circonférence.
Sa circonférence est dans 4,50 m actuellement. C'est un bel exemplaire, et pourtant il n'est pas dans un milieu particulièrement favorable, tant sur le plan atmosphérique dans le 5e arrondissement à Paris maintenant, que sur le plan de la nature du sol, étant sur les pentes de ce labyrinthe qui est une butte artificielle constituée de débris de toute nature qui n'ont pas une richesse agronomique particulière. Malheureusement, c'est un de ceux dont la croissance est la moins rapide et un des moins développés sur le plan de la vulgarisation, notamment dans la région parisienne. Il est par contre beaucoup plus répandu dans nos régions de l'ouest et du sud-ouest, où il trouve sans doute, à cause de l'hygrométrie atmosphérique, un climat plus propice à son développement.
Il y a bien sûr bien d'autres arbres que nous pourrions voir, monsieur Verdier. Nous allons terminer par celui-ci, qui est quand même un bel exemple.
Eh bien, celui-ci a la floraison très remarquable et très spectaculaire, est l'arbre de Judée. Son nom botanique est le Circis, Circis silicastrum, de la famille des légumineuses. C'est un arbre, comme son nom vernaculaire ou commun l'indique, originaire d'Asie mineure, qui a la particularité de fleurir en avril, avant les feuilles. Et une autre particularité, c'est d'émettre des fleurs directement sur le vieux bois, sur le tronc, voyez-vous, sur le tronc, les branches maîtresses. Et vous avez là un spécimen qui est toujours dans le cadre de nos arbres historiques, a été planté à la fin du XVIIIe siècle, toujours à l'époque de l'intendant Buffon, un arbre qui a un tronc de 60 cm de diamètre environ, ce qui approche les 2 mètres de circonférence. Et sur cette énorme branche, qui a son bon siècle, vous voyez des fleurs émises directement sur le vieux bois, ce qui est une particularité du règne végétal assez spéciale et que l'on rencontre sur peu d'autres espèces.
En tous les cas, en zone tempérée, pratiquement la seule espèce.
En zone tempérée, oui.
Voilà en gros ce qu'on a pu dire, monsieur Jacques Verdier, au cours de cette promenade dans le Jardin des Plantes. Bien sûr, on aurait pu parler de bien d'autres arbres que le promeneur peut, s'il le veut, découvrir. Et c'est très facile parce que ces arbres ont tous une petite pancarte qui donne beaucoup de renseignements.
Cette carte que nous appelons, nous, étiquette, oui. Comporte, chaque fois que cela est possible, le nom français ou vernaculaire de l'espèce considérée, le nom de genre, le nom d'espèce, suivi du nom d'auteur, qui est le botaniste qui le premier a décrit la plante, l'indication de la famille à laquelle appartient la plante et sa contrée d'origine. Ainsi, le promeneur est renseigné de manière rapide et quand même satisfaisante pour l'essentiel sur l'appellation, la classification et l'origine de l'arbre ou de la plante qui l'intéresse.
Le rôle du Jardin des Plantes.
le sapin aux lèvres dures, le pin qui sait bien se taire, le noyer à son ouvrage, le tilleul à son parfum, comme un sourd à son silence. L'arbre en cercle des voyages, l'arbre des sentiers communs, l'arbre des mailles roux et blancs, l'arbre aux lianes bouillonnantes, l'arbre des maisons en ruine, le hêtre au panier troué, le frêne aux épaules calmes, l'orme redoutable aux hommes, le prisme du peuplier et le saule au bout d'un fil.
Indépendamment donc de l'enseignement et de la muséologie, le Jardin des Plantes se consacre à la recherche tant fondamentale qu'appliquée, et aussi bien dans ses laboratoires que sur le terrain et dans le monde entier. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir quel est le rôle, au niveau que je viens de signaler, le rôle du Jardin des Plantes ? Jean-François Leroy.
Le rôle fondamental du Jardin des Plantes, c'est la recherche en botanique. Et vous savez qu'une chaire se consacre presque entièrement à l'étude des arbres, mais des arbres tropicaux. Nous avons, pour le moment, écarté un peu les préoccupations concernant l'arbre des zones tempérées, parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Mais nous étudions quand même tous les arbres, dans la mesure où l'arbre est une plante et qu'il y a deux chaires au muséum où on s'occupe des phanérogames, c'est-à-dire des plantes à fleurs qui couvrent le monde, dont l'arbre fait partie. Alors ce rôle est un rôle de recherche et aussi un rôle d'enseignement, dans la mesure où nous avons des arbres, nous l'avons rappelé, des arbres historiques au Jardin des Plantes, et dans la mesure aussi où nous avons commencé depuis une cinquantaine d'années la constitution d'un arboretum, l'arboretum de Chèvreloup, à Roquencourt, et qui fait partie pratiquement du domaine du château de Versailles.
Et alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez quand même nous dire en quoi consistent les recherches que vous faites, d'abord au niveau fondamental et ensuite au niveau d'application?
Au niveau fondamental, ce sont des recherches d'inventaire. Vous savez que les forêts tropicales sont très, très mal connues et sont en voie de disparition très rapide. Et par conséquent, le rôle d'inventaire est tout à fait primordial. Nous éditons des flores et pour cataloguer les différentes espèces et les différents genres et les différentes familles de plantes qui existent sous les tropiques. Et ces plantes-là sont le plus souvent en plus grand nombre des arbres. Nous étudions la classification des arbres et l'écologie des arbres, les écosystèmes forestiers, en particulier les écosystèmes tropicaux. Ça, c'est essentiellement, si vous voulez, de l'évolution et de la différenciation des espèces. Comment se fait-il qu'il existe sur le globe des milliers d'espèces d'arbres? Comment ces espèces se sont constituées au cours des âges? Et pour arriver à cet état d'innombrables espèces.
Sur le terrain, ça se passe comment?
Eh bien, sur le terrain, ça se passe de plusieurs façons. D'abord, nous avons parfois pu constituer des petits laboratoires, par exemple en Afrique tropicale. Nous avons eu longtemps, il est un peu en sommeil du fait des circonstances, un laboratoire en République centrafricaine. Nous constituons en ce moment une implantation en Guyane. Nous avons en Nouvelle-Calédonie une petite implantation avec en permanence un de nos collaborateurs, et nous travaillons en liaison avec l'Office de la recherche scientifique et technique Outre-mer, le Centre technique forestier tropical, le CNRS, qui sont eux implantés en Nouvelle-Calédonie. Et puis, le travail se fait aussi par mission, n'est-ce pas, par expédition. Nous faisons toujours, comme il y a 200 ans, des missions lointaines dans les pays tropicaux. Chaque année, nous avons des dizaines de collaborateurs qui prospectent les forêts et qui séjournent parfois 2 mois, 3 mois et plus parfois.
Et qui rapportent.
Et qui rapportent du matériel et qui font des tas d'observations sur le terrain de toutes sortes.
Oui, Jacques Verdier.
Pour revenir à l'aspect pratique sur le terrain du muséum, il faut rappeler que le service des cultures du muséum a pour but principal la conservation, la présentation et l'enrichissement de toutes les collections botaniques vivantes. Parmi celles-ci, l'arbre a eu une importance particulière. Vous avez signalé au Jardin des Plantes les arbres historiques qui sont les premiers pieds d'une essence, un genre et d'une essence donnée planté pour la première fois en France. Et il ne faut pas sous-estimer le rôle de diffusion qui a eu lieu, qui a joué ensuite à partir des semences récoltées soit sur ses premiers pieds historiques, soit sur de leurs congénères plantés dans les années suivantes. Mmh. Et cette diffusion a lieu depuis 1827 par l'intermédiaire de la grainerie du Jardin des Plantes, et ça a été la première organisation internationale d'échange, et d'échange gratuit bien sûr, mise sur pied. Il est édité tous les ans un index séminum ou catalogue de graines offertes en échange. Parmi ce catalogue où figure un très grand nombre d'essences d'espèces végétales, il y a une partie assez importante de ligneux, donc d'arbres, d'arbrisseaux. Et nous adressons ce catalogue à nos correspondants répartis dans le monde entier, qui sont au nombre de près de 600 actuellement. Eux nous envoient en échange leur catalogue, chaque année également, et il se produit ainsi, de manière suffisamment rapide et commode avec les moyens modernes, des échanges de graines, d'essences, d'un point du monde à l'autre. Alors pour revenir à l'aspect terrain des arbres, Monsieur Leroy a signalé tout à l'heure la présence de notre arboretum à Roquencourt, près de Versailles. Il s'agit d'un vaste domaine, puisqu'il fait 200 hectares de superficie, situé à l'angle nord-est du domaine national de Versailles, qui a été affecté au muséum par un décret de 1927 pour y constituer le grand arboretum national. Depuis 50 ans, il a été dit tout à l'heure, de gros efforts ont été faits et se poursuivent actuellement. Cet arboretum a pour but de rassembler le maximum d'essences ligneuses originaires du monde entier, mais originaires de régions, bien sûr, permettant la vie sous le climat parisien.
Bien, alors précisément, comment se fait d'une façon générale, en gros, l'acclimatation d'un arbre, d'une espèce ?
Eh bien, nous sommes généralement obligés de partir du semis de la graine, qui vient de la région d'origine considérée par les moyens que je vous ai indiqués tout à l'heure, de notre service d'échange. Et ensuite, il faut tenir le plus grand compte de l'écologie de l'espèce donnée, c'est-à-dire de la nature de sol dans lequel il pousse dans la nature, de l'altitude, de l'exposition, du climat, du milieu ambiant.
Alors comment arrivez-vous à reconstituer ?
Eh bien, en pépinière d'abord artificiellement, souvent en protégeant les premières années. Certains arbres parfaitement rustiques chez nous ont une croissance délicate dans leurs premières années et pourraient craindre, par exemple, les froids hivernaux. Eh bien, il faut les protéger pendant 2, 3 ou 4 ans. Ensuite, ils acquièrent suffisamment de force, les tissus se lignifient et l'on peut les placer en pleine terre, voyez-vous, plein vent.
Oui, peut-on considérer que les graines de ces arbres adaptés ne pose plus de problème après ? Est-ce qu'il y a une sorte de transmission héréditaire ?
Il y a en partie.
Oui, là, c'est difficile parce qu'il faudrait opérer sur un grand nombre et faire une sélection. Or, nous opérons sur quelques individus en général. C'est pourquoi l'arboretum est aussi très important pour précisément tester les conditions de l'Île-de-France. C'est le seul arboretum existant dans l'Île-de-France. Le plus proche se trouve à Orléans, c'est l'arboretum des Barres, très bien connu et célèbre. Et il faudrait pouvoir, sur les 200 hectares que nous avons à Chèvreloup, faire des plantations avec des origines diverses pour une même essence, n'est-ce pas ? Pratiquer une petite sélection, n'est-ce pas ? Ça serait la méthode idéale. Je crois que nous y tendons, mais
voyez-vous,
nous n'avons que 50 ans d'existence. Mmh. Il y a déjà d'ailleurs de très beaux spécimens, de très beaux individus.
Quelles sont précisément vos meilleures réussites, vos plus belles réussites ?
Je veux signaler que, en complément de ce qu'il vient de dire Jean-François Leroy, que malgré l'importance qui peut paraître considérable à première vue, et pour la région parisienne, d'une superficie de 200 hectares, eh bien, nous avons à implanter 2500 espèces botaniques, plus au moins 500 cultivars, ce qui fera, lorsque tout aura été rassemblé, au moins 3000 espèces données. Eh bien, comme nous voulons implanter des groupes minimum de 6 sujets, 5 groupés et au moins un isolé, eh bien, nous couvrons pratiquement en tenant compte des dégagements, bien sûr, indispensables. Il ne s'agit pas de faire une forêt, il faut quand même avoir quelques circulations et quelques perspectives. Eh bien, nous couvrons absolument les 200 hectares disponibles. Si bien qu'il serait très très intéressant de procéder à sur des graines d'origine diverse, mais que nous ne pouvons pas y parvenir sur ce seul terrain. Ceci, bien sûr, en liaison avec nos amis forestiers, pourra faire l'objet d'études et fait déjà l'objet d'études et d'expérimentations en des points différents du territoire.
Alors, quelles sont les belles réussites ?
Eh bien, les belles réussites, il y en a un certain nombre. Et je crois qu'il faut signaler en particulier la présence de très beaux groupes à l'arboretum de Chèvreloup, du fameux redwood américain, qui est le séquoia Saint-Pierre-Virens. C'est un arbre de très grand développement et très beau de la côte ouest, c'est-à-dire de la côte pacifique des États-Unis, et qui était réputé peu rustique dans la région parisienne. On le trouve assez fréquemment dans l'ouest et le sud-ouest de la France, mais dans la région parisienne assez peu. Et ma foi, malgré les vents froids hivernaux et le climat suffisamment rude de la plaine de Versailles, nous avons réussi à implanter des groupes qui prospèrent depuis une quarantaine d'années fort bien et sont un objet de fierté de ceux qui les cultivent.
Alors là, il y a une question que je voudrais vous poser. Il y a des arbres que l'on avait plantés à Paris, par exemple, ou dans des grandes villes, il y a des dizaines d'années. Ces arbres arrivent soit au bout de leur vie, parce que les arbres sont des êtres vivants et mortels, comme tout ce qui vit, ou alors des arbres qui sont atteints avant la fin de leur vie, de maladies dues à la pollution, etc., etc. Alors, lorsque certaines essences de ces arbres meurent, est-ce que vous avez tendance à les remplacer par d'autres essences mieux adaptées ? Et comment avez-vous appris, grâce aux recherches que vous faites, que ces arbres sont plus adaptés que d'autres dans telle et telle condition ? Jean-François Leroy.
D'abord, il faut préciser qu'il est très difficile de remplacer certaines essences. Par exemple, nous assistons aujourd'hui à la disparition des ormes. Eh bien, la disparition des ormes, nous ne pouvons pas y remédier dans l'immédiat. Il y a bien des traitements, lorsque les traitements sont faits au tout début, mais ce sont des traitements qui sont que très partiellement efficaces.
Alors, les ormes disparaissent pour quelles raisons ?
Les ormes sont atteints d'une maladie cryptogamique, n'est-ce pas, due à un champignon, le graphium, c'est la graphiose, et le champignon est transporté par un insecte, Ceratostomella. Il se développe dans les vaisseaux des arbres, et les vaisseaux sont bouchés, et l'arbre meurt. Au muséum, au jardin des plantes, nous avons été victimes de cette maladie les quelques dernières années, et tous nos beaux spécimens, certaines étaient des espèces rares, très rares même parfois, ont disparu.
Il n'y a aucune parade.
Il y a une parade, encore une fois, lorsqu'on peut pratiquer la sélection sur de très nombreux individus, ce qui n'est pas le cas dans un parc. Il existe certaines races d'hommes qui ont résisté au moins un certain temps. Je n'ai pas suivi dans les années récentes la question, mais qui ont pu résister. On avait un certain nombre dans le Bessin, en Normandie, qui était couvert, dont les haies étaient couvertes d'hommes. Tout a disparu. C'est une catastrophe dans toute l'Europe occidentale. Et alors là, il n'y a pas de parade.
Alors là, c'est un cas bien sûr extrême, dû à un facteur qu'on pourrait dire naturel.
Oui, mais l'intérêt de ce que vous a dit Monsieur Verdier il y a un instant réside là. Nous devons, et je crois que les responsables dans une cité comme Paris appliquent la règle, nous devons planter des arbres diversifiés. Et c'est pourquoi il y a des avenues avec des platanes, il y a des avenues avec des ormes, il y a des avenues avec le tona, par exemple, etc.
Alors précisément, ces arbres que vous mettez, ces platanes, ces ormes, etc., est-ce qu'ils ont été sélectionnés de telle façon à mieux résister à la pollution, au gaz d'échappement ?
Non, pas encore. Parce que c'est un phénomène assez nouveau. Vous savez, la prise de conscience en ce qui concerne la pollution est un phénomène nouveau.
Oui, mais est-ce qu'on commence à faire des recherches ?
On commence tout juste, oui, tout juste. Il y a des travaux qui sont entrepris sur la pollution, sur l'action de la pollution sur les arbres. Il y a des quantités de gens qui travaillent là-dessus. Mais pratiquement, nous ne pouvons pas encore pratiquement en tenir compte.
Est-ce qu'il n'y a pas également un autre facteur qui a tendance un petit peu à aller à l'encontre de ce que vous souhaitez ? C'est ce phénomène des résidences secondaires où les gens veulent très rapidement avoir des grands arbres dans leur terrain. Et est-ce qu'ils n'ont pas tendance à choisir dire, certaines essences qui poussent bien plus vite que d'autres, mais qui ne sont pas aussi jolies et aussi résistantes.
Ça, nous le savons. Nous avons des connaissances sur la façon dont poussent les arbres. Il y a des arbres qui poussent vite, ça, les horticulteurs les connaissent bien, ils les conseillent, et ces arbres-là sont plantés. Mais, vous savez, depuis quelque temps, depuis une dizaine d'années, peut-être pas beaucoup plus, il y a une conscience qui s'est faite de l'importance de l'arbre. Et c'est pourquoi vous voyez des cèdres magnifiques qui sont isolés, parfois même au milieu d'une chaussée, d'une route, n'est-ce pas ? J'ai vu le cadre. Ou parmi des immeubles, il y a le respect de l'arbre qui s'est imposé maintenant. On n'abat plus volontiers un arbre, on le contourne. J'ai vu des palissades, n'est-ce pas, des clôtures qui sont faites avec un arbre au milieu de la clôture. La clôture est divisée en deux par respect de l'arbre. De même, j'ai vu un maire dans les environs de Paris qui a fait faire, à tort d'ailleurs, une clôture, une grille autour d'un séquoia, croyant que le séquoia était un arbre qui pouvait être abîmé par les voitures. Vous savez que le séquoia est l'arbre le plus résistant qui soit au point de vue de l'écorce, puisqu'il a une écorce pouvant atteindre 50 cm. Et il ne risque absolument rien sous le coup d'un choc, d'un heurt de voiture. Mais c'est vous dire à quel point le respect s'est développé depuis 10 ans, le respect de l'arbre.
Alors, quel rôle jouez-vous précisément, vous, au niveau du Jardin des Plantes ?
Nous jouons un rôle permanent, multiple, par des articles, par l'enseignement, par les visites qui nous sont faites, par aussi la participation que nous prenons aux commissions dans les ministères. Mmh. Récemment, j'étais à une commission sur l'élagage, j'ai fait partie des commissions sur le remembrement. Bien entendu, mon rôle est celui d'un naturaliste, c'est-à-dire celui qui freine, celui qui met obstacle, celui qui gêne la réalisation de la technique. Par exemple, l'élagage est outrancier. On élague, l'arbre est mutilé partout. Et l'élagage est parfois nécessaire, c'est bien évident. On m'a même objecté que nous élaguions les arbres du Jardin des Plantes, ce qui n'était pas une bonne leçon donnée au public. C'est vrai, mais j'ai fait remarquer que c'était pour une toute autre raison, c'est que nous avons historiquement un jardin à la française, un jardin de Lenôtre, et nous sommes tenus de le tailler et de montrer que l'homme est là pour le pétrir et le présenter comme l'homme le veut. C'est donc quelque chose de très spécial. Mais l'élagage est outrancier en ce sens que, je ne sais pas quelle est la période, mais dans la banlieue parisienne, on ne se prive pas d'élaguer tous les 6 ou 7 ans.
Oh, et parfois, malheureusement,
parfois moins. C'est-à-dire que
l'arbre beaucoup plus rapproché,
presque en permanence réduit au
souvent 2 ans.
Et se présente comme un moignon affreux et mutilé, n'est-ce pas ?
Monsieur Jacques Verdier.
Il est bien certain que dans les cités telles qu'elles sont plantées, malheureusement dans la plupart des cas actuellement, l'élagage est devenu un mal nécessaire. Et pourquoi est-ce devenu un mal nécessaire ? Parce que les essences plantées sont très souvent inadaptées à la situation où on les plante. L'on plante des platanes, par exemple, sur des voies de 15 mètres de largeur maximum et sur des trottoirs de 2,50 mètres à 3 mètres. Alors, ces arbres sont trop près des façades des immeubles, obscurcissent les appartements, soulèvent les ouvrages de voirie, gênent la circulation, etc. Et alors, c'est là où nous agissons le plus que nous le pouvons pour faire diversifier cette flore utilisée et faire utiliser des essences, dans le cas que je citais précédemment, à moyen ou même petit développement. Et voyez-vous, dans des chaussées relativement étroites, il faut éviter d'avoir des arbres à feuillage très large, où les feuilles tombent à l'automne tout à la fois, rendant la chaussée glissante, l'été rendant même l'éclairage public difficile. Alors à ce moment-là, l'on utilise des essences à feuillage léger, mais il faut les faire connaître, ils sont malheureusement trop ignorés. Et ceci est un des rôles des arboretums, du nôtre en particulier, et de notre activité.
Est-ce que vous avez observé qu'il y avait une sorte de mode également pour les arbres?
Sûrement. Oui, il y a une mode. Tout au cours de l'histoire, il y a eu une mode. Ça dépend des époques. Mais actuellement, quelle est la mode? Maintenant, on essaye d'adapter. C'est la mentalité scientifique, n'est-ce pas? On essaye d'adapter l'arbre comme si c'était un produit humain. Et par conséquent, on essaye de l'adapter à toutes les situations que la vie moderne requiert.
Oui. Je crois que l'on peut parler de mode actuelle dans les conifères, car les pépiniéristes propage un nombre important de nouveaux cultivars ou variétés, pour employer un terme inexact mais plus répandu, de conifères colorés, à feuillage crispé, particulier, à port plus ou moins nain, et notamment dans des résidences de ville où le terrain est très mesuré, et ça, il faut se réjouir de voir cette utilisation. Eh bien, l'on peut utiliser, même sur des balcons et terrasses, voyez-vous, oui, l'on peut utiliser ces conifères à port réduit, à feuillage coloré, très intéressant. Et actuellement, il y a indiscutablement une mode de ce côté-là.
Jean-François Leroy.
Oui, je crois tout de même que ça entre dans la catégorie dont je parlais, c'est-à-dire l'adaptation aux besoins actuels.
Ah, parfaitement, parfaitement.
C'est ça.
Et voyez-vous, le rôle, pour vous souligner le rôle du muséum et du jardin des plantes, pour l'adaptation de la plante au milieu considéré, est tel, et sur un plan officiel, qu'il y a des chercheurs du muséum qui travaillent à la Défense avec l'établissement d'aménagement public de la Défense, qui sert un peu de pilote pour tout ce qui est construction sur dalle, sur sol artificiel, et qui étudient la climatologie particulière de ces situations et l'étude des choix de végétaux le plus susceptible de s'adapter à ces situations. Voyez-vous, nous sommes tout à fait là dans de la recherche de pointe.
Je voudrais faire remarquer qu'il y a danger. Il y a danger. Parce qu'on abat les arbres, les vrais arbres, on les abat pour les remplacer par des petits arbres ou par des arbustes, des arbres miniaturisés qui ont été obtenus par l'homme. Et c'est le cas, par exemple, des dalles. Et c'est très grave. Ça n'est plus l'élagage, mais c'est une façon de détruire l'arbre.
De le dégénérer,
de remplacer par quelque chose qui est une production de l'homme, mais qui n'est plus l'arbre.
Il est bien entendu que sur le plan naturaliste, les chercheurs du muséum ne cautionnent absolument pas, lors de ces études, la destruction d'arbres en pleine terre pour les remplacer par des arbres miniaturisés. Mais lorsqu'il n'y a pas d'arbres préalablement, et lorsque, quoi qu'il arrive, des dalles se font, il y a quand même intérêt à voir une végétation s'installer plutôt que de laisser le béton brut, et nous essayons de minimiser le mal en utilisant les compétences acquises par ailleurs. La mode a surtout joué au XIXe siècle, et c'était une sorte de snobisme, au moment de l'acclimatation, de l'introduction dans notre pays d'une espèce donnée. Tous les propriétaires, un peu cossus de l'époque, tenaient absolument à avoir l'arbre.
Il y a eu par exemple la mode de la rocaria.
La rocaria, oui. Notamment le séquoia. Le séquoia gigantea, oui, introduit sous le règne de Napoléon III, eh bien, vous retrouvez maintenant toutes les résidences, belles propriétés et parcs qui ont été aménagés à l'époque de Napoléon III, qui ont au moins leur séquoia, qui sont d'ailleurs des arbres d'une centaine d'années, qui sont de très beaux arbres.
Oui, Yves Lessu.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce que vient de dire M. Verdier a été vrai un peu tous les temps. Déjà au début du XVIIIe siècle, enfin, quand on pense à l'arbre aux 40 écus, l'arbre dit aux 40 écus, il doit son nom aux 40 écus qu'il fallait payer pour se procurer un plant de cet arbre rare en provenance d'Extrême-Orient, etc.
Le fameux Ginkgo biloba ou l'arbre des pagodes.
Un aspect des recherches que vous n'abordez pas au Jardin des Plantes, c'est celui de l'étude des diverses essences d'arbres en vue de leur utilisation dans l'industrie. Aussi, je me suis rendu au Centre Technique du Bois, où j'ai rencontré Jean Bessé et Paul Guénot. Et j'ai d'abord demandé à Jean Bessé si le travail du bois s'effectuait de la même façon de nos jours que par le passé.
Non, pas du tout. Un premier point qu'il faut souligner, c'est que de tous les matériaux, de toutes les matières premières, le bois est certainement l'un de ceux ou l'une de celles qui coûte le moins d'énergie à produire et à transformer, ce qui vous explique l'ancienneté de son emploi, bien entendu. Mais en même temps, c'est un matériau qui, normalement, se prête très bien aux procédés modernes de fabrication industrielle de grande série, à l'usinage mécanique. Il est très adapté. Mais il est très adapté moyennant certaines recherches ou certaines transformations. Ainsi, ce n'est souvent plus sous la forme de pièces de bois brutes que l'on approvisionne en usine, mais essentiellement sous forme d'éléments reconstitués, lamellés, collés, de grandes dimensions, de panneaux de dimensions standardisées, disons de panneaux contreplaqués, de panneaux de fibres, de panneaux de particules.
Oui, en un mot, on peut dire que la préfabrication a gagné ce domaine également.
Exactement. Autrement dit, on n'a plus à faire une matière brute, mais une matière, un produit semi-fini. Alors vous imaginez naturellement, et cela répond bien à votre question, que pour mettre au point ces fabrications, pour les améliorer, pour les perfectionner, pour adapter le produit aux exigences de l'utilisation finale, il faut une recherche permanente continue.
Alors, monsieur Guénaud, quelles sont les essences les plus employées actuellement dans le domaine du bois, du travail du bois?
En France, un certain nombre d'essences indigènes sont employées depuis très longtemps et continuent de l'être, telles le chêne, le hêtre, le sapin, l'épicéa, certains pins, les peupliers que l'on plante de plus en plus. Et on assiste aussi au développement, à la diversification de l'emploi des bois importés des régions tropicales, qui sont particulièrement favorables à la production de matières ligneuses, provenance d'Afrique, en provenance d'Extrême-Orient. Et là, il y a une liste très importante d'espèces qui sont parfois assez mal connues, assez mal distinguées les unes des autres, ce qui donne un sujet de plus pour les recherches à faire, pour mieux les reconnaître et mieux utiliser leur vocation individuelle. Cette notion se manifeste mieux depuis que l'on maîtrise l'emploi des bois tropicaux. On constate que certains bois sont faits, ont la vocation pour servir à certains emplois et pas à tous. Et justement, l'objet de nos recherches est d'optimiser l'orientation de chaque espèce vers l'emploi qui lui convient le mieux, dans lequel elle est capable de jouer le rôle le plus flatteur.
Monsieur Guénaud, y a-t-il des bois qui, à un moment donné, étaient utilisés dans tel ou tel domaine et qui, depuis, à la faveur de certaines recherches que vous effectuez, peuvent être employés dans d'autres domaines?
Oui, effectivement. Certains bois qui avaient une faiblesse particulière dans un domaine d'utilisation, par exemple certains bois résineux comme les pins, qui ont un comportement, une durabilité naturelle vis-à-vis des intempéries et vis-à-vis des attaques biologiques, des agents de pourriture du bois qui ont un comportement assez faible, une résistance assez mauvaise, peuvent voir cette durabilité et ce comportement fortement amélioré par l'addition et l'introduction de produits chimiques de préservation qui leur confèrent alors une durabilité très très acceptable, très améliorée, ce qui leur ouvre une gamme d'emplois tout à fait nouvelle.
Un des sujets de recherche et de préoccupation actuels du gouvernement, et auquel est associé d'ailleurs très intimement le Centre technique du bois, c'est l'exploitation des ressources de nos forêts et de nos campagnes pour, dans une certaine mesure, remplacer les bois d'importation. Monsieur Guénaud parlait à l'instant des bois tropicaux, mais il n'y a pas que les bois tropicaux. On importe aussi des bois résineux, on importe des bois du Nord, on importe des bois du Canada, des États-Unis. Et on peut se demander, à juste titre, pourquoi la production forestière française, la France représente de loin dans les pays de la communauté, le pays dont le territoire est le plus boisé, pourquoi la production forestière française ne peut faire face à tous ces besoins. C'est très complexe. Il y a des données économiques, il y a des données psychologiques à ce problème, mais il y a aussi certainement, et on les a déjà commencé à les entreprendre, des recherches à effectuer. Si vous voulez, je n'en évoquerai qu'un seul, par exemple en matière de déroulage. Eh bien, vous savez peut-être que la plupart du contreplaqué est fait de bois tropicaux, il est fait d'okoumé. Eh bien, les pouvoirs publics se sont préoccupés de savoir dans quelle mesure on pouvait utiliser les bois feuillus français, peupliers, hêtres, qu'on utilise déjà depuis longtemps, mais peut-être même les résineux, sapins, épicéa, pour faire ces panneaux contreplaqués, voyez-vous. Par conséquent, si on ne peut pas parler de découverte de nouveaux bois, tout au moins dans le domaine tempéré français, on peut parler de découverte de nouvelles aptitudes qui avaient été négligées par les solutions de facilité. On se trouvait en présence du temps où la France avait des ouvertures sur les territoires associés d'outre-mer, avec des solutions faciles d'importation, et actuellement la situation est totalement différente. Ces pays sont en train de s'industrialiser, les exportations de bois brut sont sujets à des certaines restrictions, elles sont taxées fortement, et vous savez très bien que tous les pays détenteurs de matières premières actuellement cherchent à valoriser au maximum cette matière première et à en augmenter les prix. Par conséquent, ça pose un problème d'exploitation rationnelle des ressources forestières françaises.
Le secret de l'arbre.
Bouche folle ou sage, il te faut parler. Bouche ouverte ou close, il te faut rêver plus haut que ton souffle. Parole, parole pendue aux plumes, vérité des nids. Entre les branches dessinées du mur sans fin de la forêt, les étoiles des œufs s'amassent.
On ne sait pas tout sur l'arbre. L'un des principaux handicaps de certaines recherches réside dans le fait que la durée d'un arbre est bien plus grande que celle d'un homme. Alors, on a mis au point des techniques qui provoquent une accélération dans le processus de développement des arbres. Je vous propose d'écouter Pierre Bouvarel, chef du département du service forestier de l'Institut national de recherche agronomique, à ce sujet.
Je vous donne un exemple. Nous travaillons pour sélectionner des lignées d'arbres à forte productivité parce qu'en France, nous avons besoin, nous aurons besoin de produire beaucoup plus de bois. Il y aura dans le monde une pénurie de bois à la fin du siècle et la France est un pays qui est bien placé pour en produire. Contrairement aux idées qu'on peut trouver quelquefois, nous avons un climat et des sols qui peuvent nous permettre de... probablement être relativement indépendant pour la fourniture de bois et produits ligneux, alors que maintenant, je le souligne, notre déficit en bois et produits ligneux est de 7 milliards de francs, c'est-à-dire vient en second poste immédiatement après celui des produits pétroliers. Je disais donc que nous essayons de produire des lignées d'arbres à haute productivité, comme on a produit des blés ou d'autres céréales ou des fruits à forte production.
Donc cela implique que vous intervenez au niveau génétique.
Alors là, on intervient au niveau génétique. C'est de la génétique. Et surtout, il faudrait que nous puissions connaître les caractères d'un arbre que nous ayons sélectionné, mais sans attendre qu'il pousse jusqu'à 40 ou 50 ans. Il faut donc que nous puissions, sur de jeunes arbres, connaître ce qu'ils deviendront plus tard. C'est ça un des éléments. Et nous avons établi ce qu'on appelle des tests précoces, c'est-à-dire un système de relation entre des caractères mesurés sur un jeune arbre et les caractères à 40 ans, par différents systèmes. Mais maintenant, nous savons, par exemple, qu'en mesurant un épicéa à 7 ans, la hauteur d'un épicéa à 7 ans, nous avons une bonne image, par un jeu de formules mathématiques, de ce qui produira comme bois à 40 ans. Donc déjà, voyez-vous, nous pouvons avancer dans ce sens-là. D'autre part, pour le généticien, il faut produire plusieurs générations successives. C'est par des croisements successifs que l'on arrive à sélectionner des variétés améliorées. Alors nous essayons de ne pas attendre qu'un arbre fleurisse à l'époque normale, enfin là, à l'âge normal, qui est, mettons, je l'ai dit, de 30 ans pour un chêne, qui est de 15 à 20 ans pour un conifère. Et par des techniques alors différentes qui combinent l'application d'hormones, des stress climatiques, nous essayons de faire fleurir les arbres beaucoup plus tôt. Et nous arrivons, pour certaines espèces, à obtenir des fleurs sur des arbres de quelques années, d'un, deux ou trois ans, ce qui nous permet d'accélérer le processus de ces croisements contrôlés. Vous voyez, ça, c'est un peu les astuces que nous essayons de mettre en œuvre pour pallier ces handicaps dont vous parliez.
Oui. Alors, les observations que vous avez faites à propos de ces recherches, vous ont-elles permis, par exemple, de reviser quelques idées qu'on se faisait sur l'arbre, par exemple, au niveau de son rôle réel dans l'écologie?
Il faut essayer de ne pas se tromper. Les forêts ont un rôle extrêmement important pour la protection des sols, la lutte contre l'érosion, le maintien d'une réserve de terres fertiles. Elles ont leur rôle dans l'équilibre atmosphérique a souvent été...
Exagéré.
Peut-être pas surestimé, peut-être, mais mal vu. Par exemple, il est clair qu'une forêt qui ne produit pas de bois ne produit pas d'oxygène. On peut dire, en poussant les choses à l'extrême, que la forêt amazonienne qui n'est pas exploitée n'entre pour rien dans le bilan de l'oxygène de la planète. En effet, un arbre produit, une forêt produit de l'oxygène, fixe du carbone dans son tronc, dans ses branches, mais l'arbre meurt, le tronc et les branches pourrissent ou brûlent, Et qu'il s'agisse d'un processus de combustion ou de respiration,
il y a
production de gaz carbonique
et absorption
d'oxygène dans les mêmes termes que la fixation de gaz carbonique et l'émission d'oxygène. Donc le bilan est nul.
Donc l'idéal serait de ne jamais brûler ni bois ni papier, puisque le papier est un dérivé du bois.
C'est ça, l'idéal, ça c'est peut-être un idéal difficile à atteindre, mais enfin ce qu'on peut dire, c'est que la forêt stocke dans son bois et dans ses branches vivantes du carbone. Et ce stockage n'est pas négligeable à l'échelle du globe. On peut aller plus loin et penser que la forêt qui produit du bois, qui est destinée à faire des meubles, qui est destinée à faire des poutres, qui dureront longtemps, est celle qui est la plus bénéfique à ce titre. Et en allant, si vous voulez, jusqu'à la boutade, on peut dire que la meilleure façon de contribuer à la réduction de l'augmentation du taux de gaz carbonique qui est dû depuis 150 ans à l'utilisation des combustibles fossiles, c'est d'acheter des armoires normandes et de les conserver dans sa famille sur plusieurs générations.
Bien, puisque nous parlons là de quelques secrets des arbres, il y en a d'autres que vous arrivez à percer aisément en extrayant un peu l'équivalent des carottes sur le plan géologique, mais des troncs cette fois-ci.
Ah oui, vous faites allusion à la recherche que nous faisons sur l'étude de la qualité du bois. En effet, nous pouvons, sans détruire un arbre, extraire un très petit échantillon, une carotte qui s'appelle effectivement une carotte de sondage à l'aide d'une tarière qui a 5 mm d'épaisseur et qui a la longueur à peu près du rayon de l'arbre. Et nous pouvons étudier cette carotte de façon très fine, avec différents instruments, et en particulier, nous pouvons la radiographier et mesurer par ce qu'on appelle la densitométrie, arriver à évaluer la densité du bois. Et nous nous sommes aperçus que ces variations de densité du bois, vous savez, dans un bois, il y a le bois qui se forme au printemps, qui a des gros vaisseaux parce qu'il y a beaucoup de sève qui monte, et puis le bois qui se forme à l'été, qui comporte des vaisseaux plus fins, parce qu'à ce moment-là, la végétation commence à se ralentir. Cette alternance de bois tendre et de bois dur se voit, c'est ce qu'on appelle les cernes de l'arbre, et ça nous raconte beaucoup de choses. Ça nous dit d'abord ce qu'est la qualité de ce bois. Nous pouvons sélectionner des chênes à bois tendre par cette méthode. Sélectionner des chênes à bois tendre et les multiplier. Et nous sommes rendus compte aussi que c'était au fond la mémoire de l'arbre, et qu'un arbre, par ce biais-là, pouvait nous raconter une histoire, que, par exemple, certaines variations de densité d'une année à l'autre pouvaient nous indiquer le moment où un arbre avait subi certaines agressions, par exemple une attaque d'insectes, par exemple le début d'une pollution atmosphérique dans la région où se trouvait cette forêt. En allant plus loin et en examinant des arbres très vieux, nous sommes aperçus qu'on pouvait établir une bonne corrélation entre ces variations de densité et les variations du climat. Autrement dit, en poussant peut-être les choses un peu à l'extrême, on peut, par l'étude des arbres, reconstituer l'étude du climat des siècles passés avant que l'on dispose d'archives météorologiques. C'est ce qu'on appelle la dendrochronologie.
Alors, toutes ces recherches débouchent bien sûr sur un aspect pratique. Et cet aspect pratique, c'est d'essayer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de provoquer une croissance plus rapide de certains arbres en recherchant, bien sûr, des lignées génétiques qui permettent cette croissance plus rapide. Alors, quelles sont les applications, précisément, donc, de ces recherches ?
Bien, en effet, nos recherches, toutes les recherches que nous poursuivons à l'Institut national de la recherche agronomique sont des recherches orientées et doivent correspondre à des objectifs socio-économiques, et là en particulier à satisfaire les besoins de l'économie française, c'est-à-dire à produire plus de bois. Produire plus de bois, ça veut dire, dans certains cas, pouvoir couper des arbres plus tôt, c'est-à-dire réduire la durée des investissements nécessaires à l'installation d'une forêt. Et cela intéresse évidemment particulièrement les propriétaires privés qui ne peuvent pas consentir les très longs investissements qui sont consentis par l'État pour produire, par exemple, des chaînes de tranchage à plus de 100 ans.
Alors, quelles sont, par exemple, les réductions auxquelles vous êtes parvenu actuellement de durée ?
Pour le pin maritime, par exemple, l'âge d'exploitabilité peut être presque diminué de moitié, en utilisant divers facteurs, la sélection génétique, le travail du sol, la fertilisation.
Vous donnez les
60 à 30 ans.
De 60 à 30 ans.
Actuellement, nous travaillons à la demande des propriétaires privés essentiellement, et de l'Office des forêts aussi, mais nous travaillons surtout sur les feuillus. Et parmi les feuillus, sur des arbres qui produisent des bois dont l'économie française a le plus grand besoin, par exemple le noyer, le merisier, les érables, les frênes. Il est assez scandaleux que nous devions importer ces bois, qu'on en trouve de moins en moins, que ça pèse très lourd sur notre balance, alors qu'on peut en produire en France. Et là, nous commençons à sélectionner des lignées de noyers, par exemple, et de merisiers, qui permettront vraisemblablement, d'ici quelques années, de mettre sur le marché des plants qui pourront produire du noyer en 40 ans au lieu de 60, à peu près un noyer exploitable en 40 ans au lieu de 60. Ce n'est pas encore peut-être un résultat très spectaculaire,
mais
c'est
tout de même
une réduction sur le tiers.
Oui. Est-ce que vous travaillez en rapport avec le Jardin des Plantes ?
Pas spécialement avec le Jardin des Plantes, mais nous avons en commun, si vous voulez, le souci d'explorer toute la variabilité spécifique des arbres forestiers. Il y a un nombre d'espèces forestières considérables dans le monde. Bien sûr, la plupart ne peuvent pas vivre en France, mais dans les arboretums, dans les collections dendrologiques en France, il y a déjà une quantité considérable d'espèces, plusieurs centaines, dont toutes les potentialités n'ont pas été explorées, aussi bien pour la production du bois que pour l'agrément, que pour les arbres en ville, que pour la reconstitution de forêts comme la région méditerranéenne, etc.
En tous les cas, sans qu'il y ait déjà à votre niveau des arbres historiques, vous avez fait un inventaire des plus beaux arbres français,
oui,
qui deviendront peut-être des arbres historiques eux-mêmes plus tard.
Peut-être, oui, mais on l'a fait ça dans un but pratique, hein, on l'a fait comme tête de lignée de nos sélections. Après, ça nous a valu de nous promener dans, enfin on y a travaillé, mais c'était un travail très agréable que de visiter toutes les forêts françaises et d'aller rechercher les arbres les plus grands, les plus gros, ceux qui ont la meilleure forme, le tronc le mieux élagué, les branches les plus fines, etc.
Alors,
et ça a été une partie très intéressante de ma carrière.
Oui. On a envie de crier des noms, M. Bouvarel. Par exemple, quel est l'arbre le plus haut et quel est, par exemple, l'arbre le plus gros?
Écoutez, je vais vous citer quelques exemples. En Corse, nous avons sélectionné des pins Laricio, qui sont ces magnifiques pins qui couronnent la montagne Corse et qui en fond de cette forêt, très certainement une des plus belles forêts de pins d'Europe. Eh bien là, nous avons sélectionné un pin qui fait 51,50 m. Épicéa, nous avons sélectionné dans les Vosges, exactement au défilé de Stretture, pour ceux qui connaissent la région, un épicéa qui fait, lui, 53 mètres de hauteur. Ah, il doit en faire un petit peu plus maintenant, parce que ça date déjà d'une dizaine d'années, il est toujours là. Et ces arbres-là sont nos têtes de sélection. La grosseur dépend beaucoup de la densité du peuplement, des voisins, voyez-vous. En France, je pense qu'il doit y avoir des chênes qui doivent faire près de 2 mètres de diamètre. Je dis en forêt, hein, je ne parle pas d'arbres exceptionnels sur la place d'une ville, mais en forêt. Chênes et sapins qui doivent friser les 2 mètres de diamètre, voyez, peut-être les dépasser.
Les relations entre l'homme et l'arbre.
Il s'agit là, bien sûr, d'ethnobotanique, c'est-à-dire des relations entre les sociétés humaines et les plantes. L'étude des connaissances et des traditions populaires concernant les plantes apporte en effet des données fondamentales pour la compréhension de l'ethnologie et pour les progrès dans certains domaines de la botanique, en ce qui nous concerne évidemment de l'arbre. Alors, Jean-François Leroy, considérons d'abord à ce propos le cas des zones tempérées.
Au point de vue ethnobotanique, je vous l'ai dit, les arbres des pays tempérés ont été utilisés depuis que l'homme occupe l'Europe occidentale, ont été utilisés dans toute leur partie et d'une façon constante pour se vêtir, pour se nourrir, pour se loger. Et nous avons des essences qui sont utiles, qui donnent des fruits dans les forêts françaises, dans les forêts d'Europe occidentale. Il y a beaucoup d'arbres qui donnent des fruits mangeables et d'une certaine valeur nutritive. De même, ils donnent des feuilles qui ont été utilisées pour les troupeaux. Ils donnent des écorces qui ont été utilisées pour les tanins. La sève a été utilisée, la résine des conifères, par exemple.
Est-ce qu'on n'assiste pas, depuis quelque temps, à un remplacement de ces produits naturels par des produits synthétiques ?
Oui, c'est sûr. C'est la marche normale de la science. On découvre d'abord dans la nature ce que donne la nature, et puis ensuite on essaye d'imiter la nature et de faire ce qu'on a trouvé. Ça, c'est une loi tout à fait générale. Mais néanmoins, les produits eux-mêmes sont utilisés encore presque directement, souvent même directement. Par exemple, les militaires exercent certaines troupes à vivre, à survivre quand on les égare, quand on égare les soldats au milieu de la nature. Il faut prévoir, n'est-ce pas, ça peut, c'est un événement qui peut intervenir dans une guerre. Eh bien, il y a des expériences qui sont faites par les militaires. On lâche, on égare les soldats dans la nature et on leur demande d'essayer de survivre pendant plusieurs jours. Et bien sûr, en dehors des pays tempérés, alors c'est une loi qui est vraiment presque général, et en période de disette, dans la plupart des pays tropicaux, lorsque la nourriture fait défaut, les gens vont dans la forêt chercher les produits qui sont indispensables à la survie. Mais les fruits sont innombrables, qui viennent maintenant sur les marchés européens. Alors, il y a le durian, le mangoustan, les mangues qui sont maintenant vendus sur beaucoup de marchés à Paris. Les kakis, n'est-ce pas, qui est le fruit de, je ne sais pas le nom, d'un diospyros, c'est un ébène, c'est aussi un arbre qui donne des bois d'une très grande valeur, l'ébène, le bois noir, dur, lourd. Et par le bois, alors nous avons des quantités de bois tropicaux qui sont utilisés dans les pays tempérés, en Amérique et dans tous les pays tempérés, et la technique évoluée. En Afrique, nous avons l'ayous, le samba, le sipo, le makoré, les acajous. D'Amérique, nous avons aussi des acajous, le balsa. D'Asie, nous avons aussi des bois, le choréa, le teck, etc.
Est-il impensable, Jacques Verdier, de pouvoir acclimater ces essences en France, même si on essaie de les manipuler génétiquement?
Ah non, il n'y a aucune possibilité en ce domaine. C'est pourquoi, depuis fort longtemps, au muséum ont été créés des serres tropicales, où dans un milieu artificiel, chauffé l'hiver, ces plantes ont été cultivées pour les études justement des botanistes.
Vous savez que les arbres sont considérés par les botanistes comme des plantes primitives, en général plus primitives que les plantes herbacées, et que les arbres et les plantes, d'une façon générale, qui sont dans les pays tempérés, ont probablement comme ancêtres des arbres ou des herbes qui sont tropicales. Par conséquent, il a fallu que dans la nature, il se fasse une adaptation au cours de temps très, très long. Une adaptation des plantes tropicales aux pays tempérés. L'adaptation s'est faite, par exemple, par un caractère que nous connaissons bien, la caducité des feuilles, par exemple. N'est-ce pas ? Eh bien, ça, c'est toute une histoire à raconter d'un extrême intérêt.
Oui, pour montrer
que dans la nature, les plantes ont su conquérir des milieux qui étaient totalement différents des milieux d'origine. C'est une question d'adaptation au cours des âges.
Oui. Il existe chez les arbres une sorte de guerre, de lutte pour la vie, comme chez les
aussi,
chez
aussi
les animaux.
Oui. Le mot n'est peut-être pas très bon, de guerre ou de lutte pour la vie, mais enfin, c'est comparable.
C'est comparable. Oui,
mais l'adaptation, il faut souligner que l'adaptation qui vient d'être évoquée est à l'échelle de millions d'années, sans doute. Car si l'on prend le cas particulier de l'olivier, entre autres, l'olivier a été introduit en France par les Phéniciens 600 ans avant notre ère. Eh bien, voyez-vous, en 1977, l'olivier en France ne remonte pas encore au nord de Valence, dans la vallée du Rhône.
Mais, Monsieur Verdier, alors là, je fais remarquer une chose. L'olivier a été introduit par l'homme. Je ne parle pas des introductions par l'homme. Il n'est pas pensable que l'olivier introduit par l'homme puisse s'adapter dans 1000 ou dans 2000 ans. Je parle de l'introduction naturelle. La nature s'est développée sur le globe au cours des temps géologiques, n'est-ce pas ? Et alors, elle s'est développée en dehors de toute histoire humaine. Bien entendu, l'homme n'existe que depuis 2 ou 3 millions d'années. Il n'est pas question que l'homme soit intervenu en quoi que ce soit. Je parle de 10, 20, 50, 100 millions d'années. Et on se reporte là en dehors même de l'ère tertiaire, au Crétacé et même au Jurassique. Plus de 100 millions d'années.
J'écris arbre, arbre pour le thorax et ses feuilles, arbre pour la fougère d'un soldat mort, sa mémoire de calcaire et l'oiseau qui s'en échappe avec un cri. Arbre, arbre pour l'arbre et le huron, arbre pour le chasseur et la hache, arbre pour la sirène et le blé, le cargo, le cheval. Arbre. L'arbre y cloue et croît. Croix de rail et de papier, croix de construction, d'épée, de fusil, croix de bombardier, téléphone, haut fourneau, sémaphore, croix d'aluminium et de néon, croix de gratte-ciel et de chien, de torture et de faim. L'arbre demain.
Nous avons parlé un peu du passé. Je voudrais maintenant, pour terminer, que nous parlions de l'avenir. Alors, l'arbre demain, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce sera ?
L'arbre demain ? Ce ne sera rien s'il n'y a pas une réaction très importante, une réaction de la pensée universelle. L'arbre est en train de disparaître à une très grande vitesse et on disposera d'un certain nombre d'essences, en nombre très limité, quelques centaines d'essences, mais les grandes forêts, les grands massifs forestiers actuels, les grands massifs forestiers de forêts à basse altitude vont toutes disparaître. Le Brésil, la grande Amazonie est condamnée, les grandes forêts
d'Indonésie
sont condamnées.
Oui, mais là c'est un peu spécial. Au Brésil, on détruit la forêt pour planter le café.
Oui, mais bien sûr, mais si c'est pas pour planter le café, c'est pour exploiter
c'est pour
des mines.
Chose.
En Nouvelle-Calédonie, on détruit la nature pour exploiter les mines de nickel.
Mais ne serait-ce que pour tracer des autoroutes.
Autoroutes, la vie moderne, le développement de la vie moderne impose la destruction totale de la nature. C'est une nécessité absolue. La nature ne peut pas échapper à sa destruction, étant donné le développement de la vie moderne.
Et cela malgré ces opérations auxquelles on assiste assez fréquemment, journée de l'arbre, planter chacun votre arbre.
Oui, mais ça c'est un peu folklorique, c'est pas sans intérêt d'essayer de développer le respect de l'arbre. Mais les grands problèmes, personne n'y touche. En ce moment, les décisions sont prises, les grands massifs forestiers de basse altitude en pays tropical, c'est-à-dire les réserves mondiales, ça représente presque toutes les plantes du globe, c'est quelque chose d'énorme. L'Indonésie représente peut-être la moitié des familles d'arbres qui existent sur le globe. Eh bien, tout ça, c'est pratiquement condamné. À Java, par exemple, il n'existe plus de forêt, pratiquement plus, des petits morceaux infimes. À Bornéo, il y en a encore, mais ça va probablement aussi disparaître. Les spécialistes pensent que dans les 25 ans qui viennent, tout va être détruit.
Oui. C'est prévu. Et pour parler d'une chose qui nous concerne un peu plus, où sont donc les forêts d'antan, nos forêts gauloises?
Les forêts en France ont disparu, les quelques massifs forestiers qui restent. Il y a beaucoup de forêts, les forestiers disent, et ils ont raison, qu'il y a beaucoup de forêts. La France est le pays d'Europe où il y a le plus de forêts, seulement quelles forêts? Ce sont des forêts de forestiers et des forêts profondément transformées qui produisent du bois, mais la richesse naturelle qui est extraordinaire est réduite très très
vite. Oui, mais les forestiers,
d'ailleurs, on la réduit de plus en plus parce que on veut affiner la forêt pour subvenir aux besoins qui sont les nôtres.
C'est ça.
Et on élimine les essences qui ne correspondent pas suffisamment à cet objectif.
Oui, mais les forestiers vous disent aussi souvent que s'ils n'entretenaient pas la forêt de cette façon,
la forêt risquerait
de mourir.
Mais là encore, les forestiers ont raison, parce que la forêt est tellement transformée qu'elle ne peut plus se survivre à elle seule.
C'est un peu comme si on lâchait dans la nature un petit chien né d'un croisement et qui n'est pas apte à vivre à l'état sauvage.
C'est ça, exactement. Oui. Il faut intervenir parce que l'homme a trop modifié, a trop changé.
Oui. Alors, que devient cette idée, Jacques Verdier, de cette tendance, n'est-ce pas, vouloir diversifier au maximum les essences en France?
Bien, pour apporter dans notre domaine plus proche, métropolitain, et une note un peu plus optimiste, il faut dire quand même qu'il a été reconnu maintenant, et fort heureusement, que l'arbre est un facteur important de régulation du climat sous notre climat français. Et on l'a bien vu en limitant les opérations, et souvent en adulant maintenant même les opérations intempestives et inconsidérées souvent de remembrement qui ont amené par la disparition des haies et des arbres, notamment dans l'ouest de la France, les inconvénients que l'on sait. Donc, ceci est reconnu et appliqué, cet avantage appliqué notamment dans les plantations urbaines, qu'on le déplore ou pas, nous allons vers une urbanisation croissante qui se poursuit, et l'arbre joue un rôle important dans la cité actuelle et de demain, un rôle notamment de brise-vent, de lutte contre la pollution. Je n'insisterai pas sur l'aspect hygiénique par le dégagement d'oxygène, mais le rôle de brise-vent, le rôle de protection, le rôle d'écran anti-bruit qui est très étudié actuellement, eh bien, a des intérêts indiscutables, et c'est un des aspects auxquels on ne pensait pas il y a encore peu d'années. Alors, voyez-vous, tous ces usages différents d'esthétique, d'aspect hygiénique, d'aspect utilitaire, brise-vent, anti-bruit, etc., eh bien, imposent une diversification. Qui dit diversification dit choix important d'essence à la disposition des aménageurs, et qui dit choix important demande des études préalables, et nous revenons tout naturellement au rôle de nos arboretums et à notre activité de chaque jour.
Alors Yves Lessu, vous pessimiste ou optimiste?
Bien, quand on voit la longue évolution du jardin, il est difficile de se faire une idée, mais enfin, pour ma part, je crois que je rejoindrai quand même le pessimisme de M. Leroy, qui voit, lui, les choses à une autre altitude, si je puis dire. Il voit l'intégrité de la nature, et non pas la nature telle que les hommes l'ont voulu. Et je crois que, justement, c'est, on peut tirer de l'image qu'offre le jardin une conclusion, puisque le jardin présente à la fois, comme l'a dit M. Leroy tout à l'heure, un jardin à la française, c'est-à-dire la nature corrigée, brossée, dirigée, rectifiée, une nature qui aurait satisfait M. de Buffon, une nature classique,
domestiquée,
et puis aussi, dans un coin, un petit sous-bois d'Île-de-France qu'on a voulu préserver et qui voudrait singer un petit peu ce qu'est la nature quand les hommes n'y ont pas encore pénétré. M. Leroy, lui, déplore la disparition de la nature, la vraie, celle que les hommes n'ont pas encore touchée. M. Verdier, lui, espère que parce que les hommes ont besoin de la nature telle qu'ils la fabriquent, ils seront obligés de l'entretenir, voire de la développer. Ce sont deux points de vue qui ne sont pas inconciliables.
Pour conclure, et dans un souci d'objectivité, je vous invite à écouter Pierre Bouvarel exprimer le point de vue des forestiers. Des forestiers que vous venez un tout petit peu d'égratigner.
La forêt en France a rarement été, je dirais, aussi bien gérée, je pèse mes mots, et aussi considérée par les Français. Et ça, c'est un fait nouveau et qui réjouit le cœur des forestiers. De voir que les Français s'intéressent à la forêt, même pour critiquer ce qu'on y fait, ça ne fait rien. Tout vaut mieux que l'indifférence dans laquelle les Français, il y a 20 ou 30 ans, tenaient leur forêt. Et ça, c'est un très bon augure pour l'avenir. Et les Français doivent se souvenir de ceci, c'est qu'ils ont maintenant environ 14 millions d'hectares de forêt. Et que, sous l'Empire, il y avait à peu près la moitié d'hectares de forêt. Et ces 14 millions d'hectares sont en bien meilleur état que les 7 millions d'hectares qui existaient à ce moment-là. Et c'est l'effort, tout de même, des forestiers français, des privés et publics, pendant ce siècle et demi, qui est arrivé à doter la France de la forêt qu'elle a aujourd'hui.
Tiennent chaud leur nid, sont chargés de farine. Dans leur ombre,
la faim sommeille et le sourire multiplie ses feuilles.
C'était La mémoire verte des arbres, une émission de Frédéric Christian, diffusée le 14 octobre 1977 sur France Culture. Lecture, Vera Feder.